Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui fait sa rentrée, avec un peu de retard. Contrairement à certains qui sont mis au travail tout de suite. Voilà, ce soir, je vais vous parler avec Jean Mathias, en face de moi, José Platine, d'un livre paru maintenant il y a quelques années, 1989 pour être précis, ça ne nous rajeunit pas, un livre de Todorov, Svetlana Todorov. Fiodorov, qui s'intitule « Nous et les autres », et qui est en sous-titre « La réflexion française sur la diversité humaine », qui a été publié par Le Seuil, qui est assez facile encore à trouver. Alors c'est un gros bouquin, mais bon. Déjà, on peut dire qui est Todorov. Alors peut-être que toi, Jean-Mathias, en sera aussi. Je sais pas, j'ai pas trop regardé. Je sais que c'est un linguiste qui a beaucoup travaillé sur la littérature, en particulier sur la littérature fantastique, où il a écrit un ouvrage de référence, et qui a aussi écrit sur la linguistique.
C'est quand même une des figures de la critique littéraire. C'est pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est il a beaucoup travaillé avec Genette, par exemple. Ouais. C'est lui qui a introduit aussi les formalismes russe et la critique en fait littéraire à partir de ça. Il a travaillé sur Bakhtine, la théorie du roman, donc c'est un auteur important qui est aujourd'hui professeur émérite, directeur de recherche émérite au CNRS. Il a travaillé aussi dans pas mal d'universités américaines prestigieuses. Donc c'est d'abord un spécialiste de la littérature et aussi, alors après, dans la deuxième partie de sa carrière, il a beaucoup travaillé sur l'histoire des idées et en particulier sur la pensée française, philosophie morale et politique, dans une approche plutôt historique. C'est pas un philosophe de formation, mais c'est un spécialiste de la pensée française, notamment de la philosophie des Lumières française, et puis de la pensée moderne en général. Donc c'est les Lumières en particulier.
Et il s'est pas mal intéressé au colonialisme à partir de son livre La conquête de l'Amérique, où il reprend tout un tas de récits des colonialistes espagnols, des explorateurs envahisseurs. Tout ça dont on avait déjà parlé. Alors moi, le bouquin là, je l'ai lu cet été, je le voyais un petit peu, le bouquin donc de Todorov, qui s'intitule Nous et les autres, comme une version côté histoire de la pensée du livre dont on avait parlé avant les vacances, qui s'intitule La question postcoloniale d'Yves Lacoste. Yves Lacoste fait l'histoire de la colonisation et Todorov lui s'intéresse au pendant, le côté idéologique en fait. Et alors c'est un livre qui commence, comme je vous le disais tout à l'heure, à avoir un certain âge, parce que bon, 1989, mais en le lisant, je me suis dit que je l'ai lu donc avec beaucoup de retard, mais je me disais que c'est finalement un livre qui avait une certaine actualité, parce que il est surtout centré sur les questions de du nationalisme, du racisme, de l'ethnocentrisme, de tous ces ismes un peu puants. Et il essaie d'analyser leur apparition dans la pensée française, à partir globalement de Montaigne jusqu'à Lévi-Strauss. Donc il couvre un spectre très très large. Comme il le dit lui-même, il s'est limité à la pensée française parce que c'était déjà un sacré chantier. Mais je pense que c'est un livre qui, vu les circonstances politiques et autres, est plutôt d'actualité, et qui en plus aborde des thèmes qui peuvent être aussi intéressants quand on tient à discuter, comme ça peut parfois être notre cas, des questions d'intégration, d'intégration, j'aime pas ce terme, mais par rapport à l'homophobie, par rapport à la transphobie, par rapport à tous ces trucs-là, qui posent toujours la question finalement de l'universel aussi et du particulier, comme Todorov le pose dans sa question, parce qu'il aborde, à mon sens... Alors, ça peut peut-être faire un peu, c'est ce que je me disais en préparant l'émission, ça peut peut-être faire un peu scolaire, et en même temps, je pense que c'est un vrai problème, parce que il me semble qu'il aborde le problème de comment penser la diversité humaine sans lier l'unité du genre humain, et inversement. Alors, comment penser l'unité sans nier la diversité? Et là, je trouve qu'il y a une vraie difficulté, parce que on est tenté, soit quand on veut justement lutter contre le racisme, on a tendance à affirmer l'unité, et on écrase gaillardement à peu près tout ce qui ressemble à une différence, toutes les particularités. Et l'inverse, quand on veut insister à juste titre sur les particularités, on a tendance à oublier l'unité. Et à retomber dans certains trucs où finalement on a l'impression que les gens n'ont plus rien à se dire ou plus rien à communiquer, parce que leurs particularités sont trop éloignées. Et comme il l'aborde en plus à partir d'auteurs classiques, du 18e, du 19e essentiellement, par rapport aussi à tous les débats qui ont lieu sur la responsabilité, mettons, des Lumières dans les travers de la civilisation actuelle, je le trouve plutôt intéressant, parce que il n'hésite absolument pas à mettre en avant ce que les auteurs des Lumières ont pu dire de scandaleux aujourd'hui et toujours, mais aussi il essaie de sauver quand même ce qu'il estime être un esprit des Lumières, qui pour lui est toujours valable. malgré l'examen sans comment dire sans complexe et sans
concession
des doctrines de Diderot ou de ce qu'a pu dire Voltaire par exemple sur les Noirs. Peut-être que je vous citerai quelques passages, c'est assez croquignolet. Donc ça j'aime bien, c'est sûr que c'est pas genre c'est pas les Lumières c'est le nazisme, mais c'est pas non plus les Lumières vont nous sauver. C'est plutôt une espèce d'examen un petit peu, voilà, sans... alors sans préjugé, c'est difficile à dire, ou sans... bon, parce que... Bon, en toute objectivité, ce serait difficile à dire aussi, parce qu'il y a évidemment des partis pris. Voilà ce qui m'avait semblé plutôt pas mal.
Et il le fait, il a apprécié une approche qui est de en tant qu'historien des idées.
Hein, en tant qu'alors, plutôt, lui, plutôt historien de la pensée.
De la pensée, d'accord.
Parce que... un des côtés aussi sympathiques de son bouquin, c'est qu'il y a une certaine modestie. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, je me suis penché sur l'idéologie. Il prétend pas faire une histoire de ce qui s'est réellement passé. Et en même temps, donc, il étudie pas tellement le contexte, par exemple. Le contexte historique, il le laisse un peu de côté. Et il se penche surtout sur les doctrines.
D'accord.
Mais bon, ça c'est posé d'emblée dès l'introduction. Et il dit qu'évidemment, il est conscient des limites de ça. Parce que une histoire des idées, c'est pas une histoire du colonialisme, par exemple. Même une histoire des idées du colonialisme, c'est pas une histoire du colonialisme. Parce que c'est deux processus complètement différents. Et c'est pour ça que je disais que ça pouvait faire un bon complément au bouquin d'Yves Lacoste sur la question postcoloniale. Puisque Lacoste, il se penche pas tellement sur la question idéologique. Il se penche surtout sur ce qui s'est passé réellement. Et ça pourrait être intéressant de les lire en parallèle. Après, bon, ce qu'il faut voir aussi, c'est que Todorov, pour des motifs, à mon avis, à la fois, comment dire, à la fois personnel et idéologique, c'est pas du tout un excité politique. C'est quelqu'un qui vient de l'Est.
Il a fui la Bulgarie.
Il a fui la Bulgarie. Donc, pour lui, il le dit dès le départ, il doit vite s'agacer quand on critique la démocratie française parce que il n'y en a pas de goulag, en gros. Donc c'est pas un révolutionnaire. Ces deux figures principales, c'est Rousseau et Montesquieu. Et il finit sur Montesquieu et sur l'idée de modération. Donc voilà. Mais malgré tout, je pense que ça reste quelque chose de très intéressant, surtout dans le contexte actuel où, comme on l'a dit souvent sur cette antenne, la gauche intellectuelle française, la gauche philosophique française, a eu tendance à jeter les Lumières, l'universalisme aux orties, sans doute un peu vite. Et donc c'est là-dessus qu'il part justement, c'est son premier chapitre. Alors c'est un gros bouquin, ça fait 500 pages, il aborde des tonnes de trucs, des tonnes d'auteurs, c'est très riche. Et en même temps, autre avantage, et c'est aussi pour ça qu'il me faisait penser au Lacoste, c'est un bouquin très très clair et facile à lire. On n'a pas besoin d'être un spécialiste de l'histoire des idées ou des Lumières françaises pour pouvoir le lire. Il est clair et accessible si on a l'habitude un peu de lire des essais, globalement. Et en même temps, il ne donne pas dans le prophétisme ou dans des espèces d'envolées lyriques ou spéculatives forcenées. Il reste à un niveau d'analyse qui me semble intéressant pour ça. Et donc il part de l'universalisme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et le premier chapitre, c'est en gros universel et relatif, c'est comment, c'est un problème aussi super classique dans la philosophie des Lumières et en sens actuellement, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit inventer ou espérer trouver des valeurs morales, éthiques ou scientifiques qui seraient universelles. Ou est-ce qu'il faut plutôt se contenter de choses plus modestes, a priori, qui seraient, dont on dirait qu'elles sont relatives à notre culture et qu'elles ne sont pas forcément valables dans un autre espace-temps, pour aller vite. En gros, voilà, le bien, il y aurait un bien et un vrai français, et puis un bien et un vrai allemand, un bien et un vrai togolais, un bien et un vrai chinois, est-ce qu'on peut, voilà, ou sud-américain, comme on veut, enfin bon, brésilien. Voilà. Et alors, ce qui est pas mal, c'est que, bon, il me semble, par rapport à tout un tas de trucs, c'est que, bon, aujourd'hui, évidemment, l'universalisme a mauvaise presse dans les milieux contestataires, parce que très souvent, il est utilisé pour écraser tout ce qui peut ressembler à quelque chose qui n'est pas républicain, blanc, mâle et moustachu. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, l'universalisme s'accompagne souvent, justement, d'une espèce de discours républicain guerrier, du genre rejoignez la République ou dégagez. Et c'est assez déplaisant. Et donc, on a l'impression qu'être de gauche, c'est forcément défendre les particularités. Alors là, historiquement, c'est pas forcément vrai. Et ce que va montrer Todorov, et qui est intéressant, c'est qu'en fait, il part de la critique de tous les universalismes qu'il estime factices. dire, voilà, l'universalisme, il n'a plus s'incarner. L'universalisme, donc, c'est-à-dire la prétention à découvrir ou à mettre en valeur, enfin, à montrer des valeurs universelles communes à toute l'humanité. Il dit, voilà, il y a l'ethnocentrisme et le scientisme qui prétendent être universels. Et il va démontrer, enfin, il va montrer dans son bouquin, à partir des auteurs qui l'estiment être ethnocentriste ou scientiste, que ça ne marche pas. Et que, en fait, ce ne sont pas de réels universalismes. Alors, sur l'ethnocentrisme, donc, qu'est-ce que c'est que l'ethnocentrisme? Ça, c'est relativement simple. Globalement, c'est la croyance que les valeurs de ma culture sont les seules valables, les seules propres à une véritable humanité. Donc, en gros, si vous n'adhérez pas, je ne sais pas moi, au républicanisme français, c'est parce que vous êtes un sauvage et que vous n'avez pas encore atteint un niveau de civilisation suffisant. Bon, ça, c'est des arguments qu'on a pu voir développer, justement, pendant la période coloniale. Et ce que montre là-dessus Todorov, c'est qu'en fait, cet ethnocentrisme part toujours du particulier, c'est-à-dire de la culture du penseur, qui va universaliser de manière illégitime. Et pour ça, il prend deux exemples. Il prend l'exemple du siècle classique français de Pascal et de La Bruyère. Il va dire, voilà, pour Pascal, chaque fois qu'il parle de l'homme, de la misère de l'homme sans Dieu et de la béatitude de l'homme avec Dieu, il parle de l'homme avec un article, comment dire, avec un article défini et truc, il parle de l'homme universel, se disant. Sauf que dès qu'il parle d'une culture étrangère, on s'aperçoit que pour lui, l'universel, en gros, c'est le janséniste, c'est-à-dire c'est Pascal. Celui qui croit au Dieu chrétien, celui qui a telle manière, etc., etc. Et donc pour et La Bruyère, alors La Bruyère c'est presque encore pire, puisque La Bruyère pour lui, l'étude de l'homme peut se contenter d'étudier le courtisan à Versailles. C'est-à-dire que pour La Bruyère, on peut comprendre l'homme limite à partir du roi, puisque les courtisans, comment dire, le roi donne une mode, les courtisans se conforment à la mode, le bas peuple se conforme à la mode des courtisans, etc., par cercle concentrique. Ce qui fait que si on a compris le courtisan de Versailles, en fait on a compris toute l'humanité. Et à partir de là, ce que va dire Todorov, et ça je trouve ça plutôt intéressant, c'est qu'il montre que c'est un raisonnement qui est toujours circulaire. C'est-à-dire que on prétend avoir trouvé une valeur universelle dans sa culture, et à partir de là, on légitime sa propre culture et on condamne les autres. Alors que cet universel prétendu vient de notre propre culture. Et malgré, en plus, et il montre bien que même chez Pascal, il y a parfois des ambiguïtés, où Pascal dit il faudra avoir encore plus de précautions à prendre quand la valeur qu'on essaie de mettre universelle vient de notre culture, il faudra être plus prudent. Sauf que dans les faits, il y a des déclarations de principe, et après, dès qu'il y a un jugement qui est sur l'étranger, sur le musulman, sur un autre, paf, ethnocentrisme, ils n'ont rien compris, Mahomet n'a pas été annoncé, n'a pas été prédit, Jésus c'est le seul vrai, etc. etc.
Bah, il y a les formules de Pascal ultra célèbres, voilà, vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà. Donc ça, Pascal il est connu pour ça, sur le fait d'une espèce de relativisme un peu de principe, c'est-à-dire qu'effectivement Pascal serait très attentif justement à la particularité des points de vue et à la manière dont on pose les choses et dont on considère les choses, comme s'il n'y avait du coup pas d'universalité possible, mais dans le même temps, effectivement, comme tu le dis, dès qu'il s'agit de parler de la nature humaine, ou de la condition humaine en général, ce qui est en jeu, c'est effectivement les états d'âme du janséniste qu'il est. Comme si effectivement chaque être humain effectivement devait être évalué et compris dans ses problèmes et ses questionnements à partir des questionnements qui sont uniquement ceux de Pascal pour le coup. Donc il est à la fois ultra relativiste dans les paroles et en même temps effectivement dès qu'il s'agit de tirer des formules générales qui s'appliqueraient à n'importe quel être humain, les seules références qu'il ait et les seules références qu'il pose sont celles, effectivement, comme tu dis, des questions d'un janséniste cultivé du 17e en France, quoi.
C'est ça. Et alors là, il y a un petit passage de Todorov, là, c'est dans... Je vous le lis. Donc le raisonnement de Pascal est en cela exemplaire de l'esprit ethnocentrique. On définit d'abord les valeurs absolues à partir de ses valeurs personnelles, et on fait semblant ensuite de juger son propre monde à l'aide de ce faux absolu. Donc là, il cite Pascal, « Nulle religion que la nôtre, donc le christianisme, n'a enseigné que l'homme naît en péché. » C'est-à-dire qu'en gros, l'homme naît pécheur. « Nulle secte de philosophes ne l'a dit. Nul n'a donc dit que vrai. » On est les seuls à avoir dit ça, les autres ne l'ont pas dit. Donc ils ont tout fait.
Le christianisme est la seule religion vraie, quoi.
Et il ajoute, Todorov ajoute, « Là, le vrai est défini par le nôtre. » Ce qui n'empêche pas ce vrai de venir ensuite rehausser le prestige d'une autre en le parant de ses belles couleurs. L'universalisme de Pascal est de l'espèce la plus banale, celle qui consiste à identifier de façon non critique ses valeurs avec les valeurs. Autrement dit, l'ethnocentrisme. Et donc ça, je trouve ça pas mal, parce que justement, il prend de fouet une question importante, qui est que souvent, l'universalisme n'est que de façade, et consiste à promouvoir ses propres valeurs. Et après, la deuxième forme d'ethnocentrisme qu'il va attaquer, c'est ce qu'il appelle le scientisme. Alors aussi, je trouve ça intéressant, parce qu'il n'est pas anti-science. Il pense au contraire que la manière dont l'Occident a institutionnalisé la science... Et là, j'utilise ces formules à dessein, c'est-à-dire que je ne pense pas que seul l'Occident était capable de science, mais que la manière dont la science a été institutionnalisée en Occident est intéressante parce que c'est une institution qui permet sa propre critique et donc son propre progrès. Et c'est ça qui l'intéresse.
Donc il pense à quoi là? C'est la mise en place de l'Académie des sciences,
de laboratoires, je pense, de sociétés savantes où il y a des articles qui sont échangés. En gros, c'est l'autonomie de la science par rapport à l'idéologie dans une certaine mesure, et la religion. Et c'est ça qui l'intéresse. Mais en même temps, il y a ça l'intéresse beaucoup, donc il n'est pas du tout opposé à la science. En revanche, il est complètement opposé à ce qu'il appelle le scientisme. Et le scientisme, alors là, bon, ce serait contestable, il le trouve chez Diderot et dans le supplément Voyage de Bougainville de Diderot. En fait, je pense que ça vient de Spinoza, ce qui condamne comme scientisme, c'est l'idée qu'on pourrait tirer toutes les lois politiques et morales de l'étude de la nature. Et qu'à la rigueur, il suffit de faire de la biologie ou de la physiologie. Et ce qu'il condamne là-dedans, c'est l'idée que le scientisme, finalement, aboutit à un déterminisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a zéro liberté chez l'être humain, et que la politique ne doit pas exister parce que il n'y a pas de problème politique quand on a bien compris ce qu'était la nature humaine.
Et qu'on l'étudie de manière scientifique.
Et pour lui, ça, c'est à peu près c'est la source de ce qu'on peut faire de pire en matière politique.
Bah, c'est l'homme-machine de la maîtrise.
C'est l'homme-machine de la maîtrise, donc matérialiste du XVIIIe siècle, qui exemplifie un peu le cynisme. Et lui, il le trouve un peu chez Diderot. Et il en voit ensuite les conséquences chez Condorcet. Condorcet, qui est le dernier encyclopédiste qui meurt sur l'échafaud pendant la Révolution. Il en voit aussi les conséquences chez Saint-Simon, qui est un utopiste du 19e siècle, qui voulait une société complètement rationalisée, et chez Auguste Comte, un philosophe positiviste. Et pour lui, le scientisme, finalement, conduit au rêve d'un état total et mondial, qui serait dirigé uniquement par des savants. Et alors ça, c'est aussi une fausse forme d'universalisme, tout simplement parce que le scientisme ne prend pas en compte la liberté humaine et aussi la décision politique. Le fait qu'on peut pas, on peut pas tout simplement, c'est un vieux truc, c'est en philosophie, on peut pas tirer des normes politiques d'un état de fait, même si on l'a analysé scientifiquement. Vous pouvez dire autrement, c'est pas parce que l'homme a telle nature biologique, l'être humain a telle nature biologique, qu'on peut en tirer une quelconque conclusion morale ou politique. C'est deux domaines qui sont complètement séparés.
Donc c'est pas un vrai universalisme, parce que ça a tendance en fait à tirer des conclusions à partir d'une photographie qui est située factuelle. À un moment donné, quoi.
Et puis factuelle. Ça part du particularisme biologique humain.
Ah d'accord. C'est pas un problème de contexte dans lequel tu tires tes connaissances, et le fait que tu vas généraliser des connaissances sur une situation à un moment donné. C'est pas ça le
non, c'est le fait que tu passes. C'est le problème que tu passes du fait biologique à la norme politique.
D'accord.
Et que pour lui, il doit pas y avoir une solution de continuité plutôt entre le fait biologique et la norme politique. Et il y a une rupture complète.
Et alors pourquoi c'est pas universaliste ça comme approche?
Alors attends, ça j'ai un peu oublié peut-être.
Je pense à ça juste, ouais. je réagis, c'est un peu hors contexte, ouais. Mais parce que tu trouves des arguments de ce genre-là aujourd'hui chez quelqu'un comme Chomsky par exemple,
ouais.
Qui s'appuie sur conception, une analyse du langage humain et
à partir du cerveau,
une connaissance scientifique du langage et des structures du langage dans le cerveau, et qui en tire une politique pour le coup libertaire.
Ouais. Alors pour y répondre en fait, il faudrait que j'avance sur la question du racisme, parce que pour lui, le racisme est fils du scientisme. Chez Chomsky, comme Chomsky dit, finalement, on peut tirer certaines conséquences de l'étude du langage.
Politique.
Que ça a une conséquence, mais la conséquence que tire Chomsky, elle est simple, c'est que le langage, qu'est-ce qu'il caractérise? C'est son côté, c'est son aspect infini.
Sa créativité.
Et que le seul référent que Chomsky voit à ça dans la vie politique humaine, c'est la liberté. Et donc chez Chomsky, ça aboutit finalement, cette idée d'une nature humaine aboutit à la liberté. Alors que chez les scientistes, elle aboutit au déterminisme biologique. Et Todorov dit qu'à partir de là, il y a des tas de gens qui vont être tentés de conclure que telle nature aboutit à tel comportement. Et comme ils ne sont pas tous d'accord pour dire que l'espèce humaine est une, ils vont dire, ben, le noir a telle nature biologique et donc il doit avoir tel comportement. Le blanc a telle nature biologique et donc il doit avoir tel comportement. Et à partir de là, il faut faire telle loi. Et en fait, pour Todorov, le scientisme aboutit quasiment tout le temps à différentes formes ou de racisme ou de biologisme. C'est-à-dire à des façons où tu vas dire ben, tel être humain, vu sa nature, il vaut pas beaucoup mieux qu'un animal.
Ça, je pense que c'est une question intéressante pour nous, y compris pour les auditeurs, parce que sur cette question, sur cette analyse du scientisme là, il y aurait peut-être des choses à aller regarder, y compris du côté des classiques libertaires avant Chomsky, il y a Kropotkin.
Ah, Kropotkin, oui. Hein? Kropotkin est parfois scientiste. Hein?
Qui s'appuie aussi sur une espèce d'enquête scientifique sur la nature humaine et qui en tire, lui, pour le coup, des politiques d'entraide et de coopération. Mais le raisonnement, alors les conclusions sont pas les mêmes, mais et elles sont sur une politique ouverte et libertaire, mais n'empêche que la méthode est la même, c'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de partir d'une analyse scientifique la plus rigoureuse possible de la nature humaine pour arriver à justifier une politique.
Ouais.
Alors est-ce qu'il tomberait, je sais pas, bon, c'est je réagis par rapport à ce que tu dis là, mais...
Je sais pas, c'est intéressant parce que j'aime bien le côté, justement, le problème du scientisme tel que le pose Todorov me semble intéressant aujourd'hui, en particulier avec tout ce qui relève de l'expertise. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas de décision politique à prendre après un débat contradictoire. Il suffit juste de savoir ce qu'il faut savoir et la solution découle d'elle-même.
C'est ça.
Et ça, je trouve que c'est intéressant d'attaquer ce truc-là. Aussi par rapport justement à une espèce qui, s'il y avait une continuité entre la nature humaine et les normes morales ou politiques, ce serait quand même embêtant, enfin, je pense. Là-dessus, je le trouve. En tout cas, il y a matière à débat, et c'est plutôt pas mal. Et alors, après, avant d'avoir une petite pause musicale, parce qu'on saoule les auditeurs, je termine vite fait sur le côté de l'universalisme. C'est que pour Todorov, s'il y a un bon universalisme, éventuellement, il est représenté par Rousseau. Et pour, si vous voulez bien concevoir l'universalisme, c'est-à-dire l'idée qu'il pourrait y avoir des valeurs universelles communes à tous les hommes, il cite un passage où Rousseau dit en gros, si on veut bien connaître le français, il faut apprendre le latin. Et l'idée que voit Todorov là-dedans, c'est l'idée qu'on peut commencer, mais seulement commencer, à penser à un universel à partir du moment où on a affaire à au moins deux éléments hétérogènes. On ne pourra jamais penser l'universel à partir d'une culture, il faudra toujours partir d'au moins deux. Et plus tard, alors ça, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir, je pense que Todorov a en vue une espèce d'universalisme... qu'en ancien lecteur de Kant, j'appellerais un universalisme a posteriori, c'est-à-dire on ne peut pas postuler à la base ce qui est universel.
Il faut faire une pause là parce qu'on ne comprend plus.
On ne peut pas partir. Et bon, on va faire une pause et puis on reviendra là-dessus.
Enfin, ça se fera. Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, c'est Jeudi Noir qui fait sa rentrée avec Michel, José et moi-même autour d'un livre de Zedan Todorov qui s'appelle Nous et les autres, réflexion sur la pensée française de la diversité, qui est un texte de 1989 et on vient d'écouter à l'instant Enfance sauvage avec le titre C'est nous. Voilà, alors Michel, tu nous expliquais là dans la première partie de l'émission, t'essayais avec plein de ismes et plein de mots compliqués. On a déjà plusieurs messages d'insultes là de la part de nos auditeurs, on s'en excuse auprès d'eux à l'avance. Je précise quand même que ce sont les lectures de vacances de Michel hein, qu'on est en train de subir. Enfin, ça donne une idée du niveau d'exigence qu'on met dans cette émission à l'égard de nos éditeurs. Bon, alors t'essayais de nous expliquer donc dans la première partie de l'émission comment il essaye de montrer la manière dont apparaît et dont se construit petit à petit le projet universaliste chez les philosophes français, puisque c'est le cadre qui se donne, et comment du coup ce projet d'arriver à formuler des valeurs qui seraient communes à tous les hommes bute toujours chez les auteurs dont il nous parle. Alors tu as évoqué Pascal, tu as évoqué Diderot aussi, les matérialistes français, les philosophes des lumières français. Et donc comment ce projet d'essayer de faire émerger des valeurs morales qui seraient communes à tous les hommes et aussi du coup une politique qui pourrait qui serait une politique de paix finalement, s'appuyant sur voilà ces valeurs communes, comment ce projet-là finalement bute toujours chez les auteurs qui l'intéressent sur leur point de départ, c'est-à-dire la manière dont ils ont tendance à généraliser les valeurs de leur propre culture. Bon, c'est un problème qui est classique, mais effectivement qu'on rencontre, y compris chez les plus grands, la preuve. Et comment, du coup, ils peinent à aboutir à ça. Deux erreurs classiques, d'après Todorov, si je reprends ce que tu disais. Ouais. L'ethnocentrisme, c'est-à-dire le fait de généraliser sans s'en rendre compte des traits de caractère, des valeurs morales ou des projets politiques qui sont propres, effectivement, à la culture française du moment dans lequel on rédige.
Ou pire encore, au genre auquel on appartient. À la classe sociale à laquelle on appartient, etc. Voilà. etc.
Donc, alors, exemple, Pascal, La Bruyère pour avant les Lumières. Et puis, deuxième universalisme biaisé, ce que Todorov appelle le scientisme, c'est-à-dire tous les auteurs qui cherchent en fait à déduire une politique à partir d'une analyse supposée scientifique de la nature humaine, et c'est là qu'il parle, tu disais, de d'auteurs comme Diderot ou Lamétrie ou des philosophes des Lumières français là-dessus. Alors du coup, ça nous fait donc deux impasses, des gens qui veulent effectivement, qui sont à la recherche de ça, une espèce de connaissance de la nature humaine en général, de l'humanité en général, en essayant de déterminer des valeurs et puis une politique qui serait conséquente par rapport à ça, et en même temps deux erreurs dans lesquelles, deux ornières de laquelle il n'arrive pas à se sortir. Alors tu disais la piste qu'il suggère, il la trouve chez Rousseau,
c'est ça,
hein, et ce serait, en essayant de construire toujours à partir au moins de deux cultures différentes. Voilà.
Alors, au moins deux, dire peut-être avec l'idée que je pense que chez Todorov, l'idée qu'il va ensuite développer, ça va être que d'une certaine manière on n'a jamais fini de penser l'universel, parce que il y a toujours des nouveaux comportements, des nouvelles normes humaines qui sont intégrables, pour peu qu'on les ait ignorées auparavant. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est justement quand je disais de façon un peu abstraite que c'était pas une idée toute faite d'universel qui était posée et après
qui servait de
cadre et d'étalon définitif pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce serait plutôt quelque chose d'ouvert. Alors, on ne sait pas d'où l'universel peut surgir d'une certaine manière. Et après, il pose pas trop la question de savoir comment est-ce qu'on le reconnaît comme universel. Moi, je pense souvent à l'extension de l'usage des chiffres arabes, par exemple, en Europe, au Moyen Âge. C'est un livre dont j'avais parlé il y a longtemps. C'était une histoire populaire des sciences, où finalement, l'auteur montrait que les chiffres arabes, qui étaient donc nés dans une culture particulière, étaient devenus universels. Du fait de leur utilité, en fait, ils étaient vachement plus pratiques pour compter que des chiffres romains qui empêchaient de poser des additions un peu complexes. Et je me demandais justement, il pose pas du tout cette question-là, la reconnaissance de l'universel. Quand est-ce qu'on sait qu'on a affaire à quelque chose qui pourrait être valable pour tous les êtres humains sur cette planète?
En politique, tu peux peut-être penser aussi, alors c'est des textes qu'on a aussi pas mal discuté ici sur cette antenne, c'est tous les travaux de Graeber sur la démocratie, la manière dont effectivement Graeber identifie des pratiques démocratiques dans des contextes extrêmement différents. Ça peut être les Iroquois, les pirates, pirate de la côte ouest africaine. En tout cas, certainement pas une pratique qui serait réservée à l'Athènes d'il y a 2500 ans et qui aurait posé une fois pour toutes ces pratiques-là. Alors, ça serait. En fait, si je comprends bien, en fait, ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de voir comment des pratiques, des idées ou des valeurs, finalement, deviennent universelles. Alors,
ou du moins, comment est-ce qu'on peut concevoir un universalisme qui ne va pas immédiatement de devenir un ethnocentrisme, un patriarcalisme ou je ne sais pas quoi encore, qui, en fait, ne fait que légitimer la domination d'une minorité sur une majorité. Parce que dans la plupart des cas, historiquement, c'est ce qu'a été l'universalisme. Et en même temps, on voit bien, comme quand il analyse un peu le relativisme...
Il faut peut-être le préciser un peu, parce que c'est la critique classique de l'universalisme que tu dis là, c'est qu'en fait, c'est toujours un moyen qui est utilisé finalement, en général, c'est une manière de justifier des conquêtes. C'est-à-dire, bon, alors, la colonisation, bien sûr...
Ou une domination quelconque.
On arrive effectivement, on conquiert de nouvelles terres, de nouveaux peuples, de nouvelles ressources, etc. Et on dit qu'on le fait, effectivement, pour faire progresser le genre humain. Donc ça a été le cas du colonialisme à la française, pas forcément tous les colonialismes, mais particulièrement dans le cas du colonialisme français. Et c'est une critique qui est du coup devenue classique. Alors effectivement, on la retrouve dans les historiens du colonialisme et de l'idéologie colonialiste. Mais comme tu dis, ça peut se décliner sur plein de thèmes. Hein. Effectivement, ça peut être européen centré, hétéro centré, blanc centré, quinquagénaire blanc hétéro centré. Enfin, on peut raffiner l'analyse et comment à partir d'effectivement ce cadre-là, qui est un cadre particulier, minoritaire souvent, même s'il était majoritaire, ça ne changerait rien, mais comment à partir de ce cadre-là, on va chercher à imposer des normes particulières au nom de l'universel.
C'est ça. Voilà.
Et donc pour éviter de buter là-dessus, donc il essaye, lui, d'aller chercher chez Rousseau.
Lorsqu'il est là, je peux vous le citer, le bon universalisme, alors bon, ici c'est entre guillemets, le bon universalisme est donc d'abord celui qui ne déduit pas l'identité humaine d'un principe, quel qu'il soit, mais qui part d'une connaissance approfondie du particulier et qui avance par tâtonnement. Et c'est ça que je trouve plutôt intéressant. Parce que justement, ça évite... ça pourrait peut-être éviter ce que tu décrivais à l'instant. En tout cas, c'est une piste. Et c'est d'autant plus une piste qu'après, Todorov montre à quel point le relativisme, c'est-à-dire l'idée que... qui est souvent vu avec une certaine sympathie, parce qu'on y voit, au contraire, de l'ethnocentrisme et de tous ces trucs-là, un principe de tolérance.
Le relativisme, c'est l'attention portée aux cultures particulières, aux pratiques particulières, aux identités particulières.
Et l'idée que toute valeur est relative à cette culture particulière, et que par conséquent, elle n'a pas le droit d'essayer de s'imposer, par la force ou par l'idéologie, à une autre culture qui ne partage pas ses valeurs propres.
Alors c'est pour situer quand même historiquement ça a d'abord été une critique de droite ça.
Oui. Hein,
c'est une critique contre les Lumières, donc c'est une critique réactionnaire au 19e
qui au 18e déjà avec Herder en Allemagne qui va revendiquer la spécificité du peuple allemand. Exactement. Mais qui est déjà quasiment dans le sang et dans le sol. C'est ce sera qui sera repris par les nazis plus tard.
C'est ce qui se retrouve après dans les nationalismes effectivement.
Et justement lui va montrer il va montrer déjà plusieurs choses
et juste finir là-dessus, ça a d'abord été historiquement une critique de droite, c'est quand même la matrice de tous les nationalismes et des racismes. Et ça a tendance à être devenu depuis, mettons, 40-50 ans, une critique plutôt de gauche maintenant.
Oui.
Hein, c'est-à-dire, effectivement, à raison, hein, pour dans certains cas, la défense des minorités ethniques, religieuses, sexuelles. Et donc, c'est devenu effectivement une revendication de gauche. Et peut-être qu'effectivement, un des avantages, c'est d'essayer de remettre un peu en perspective cette affaire-là pour montrer les risques qu'il y a, les ressources et les risques qu'il peut y avoir dans ce type d'attitude-là.
Enfin, et justement, alors, il le montre en étudiant Montaigne, alors plein à Montaigne, Barrès, qui est un grand nationaliste français.
Un des papes de l'extrême droite.
Et Lévi-Strauss. Lévi-Strauss qui a été, alors il montre à quel point Lévi-Strauss est souvent, en fait, pas très très cohérent sur la question. Lévi-Strauss, un grand ethnologue français, qui est mort il y a quelques années maintenant, à l'âge de plus de 100 ans. Il est mort un peu trop vieux, il a dit plein de conneries à la fin.
En fait, c'est à la fois un des plus grands critiques du racisme.
C'est ça. Et en même temps,
race et histoire, et en même temps, c'est quelqu'un qui, à la fin, a développé l'idée d'écologie humaine, c'est-à-dire l'idée que l'uniformisation des cultures était mortifère et que donc il fallait plutôt être dans une logique de conservation des cultures particulières, y compris lorsqu'elles paraissaient rétrogrades, etc., réactionnaires et tout ce qu'on veut. Donc effectivement, il se trouve effectivement pris dans le dilemme dont tu parles depuis le début, à la fois très universaliste en disant le racisme c'est n'importe quoi et justement l'universalité d'une culture culture se mesure à la capacité de l'accueil.
Bah, et en même temps, parce qu'en même temps, il refuse l'idée d'universalité de la culture.
Oui.
C'est-à-dire que pour lui, ce qui est universel, c'est la nature. Et à partir du moment où on a fait une culture, on a affaire à du particulier. Et si c'est, si c'est universel pour Lévi-Strauss, l'universel est toujours naturel. Oui. Il ne peut pas être culturel. Ce qui implique qu'au bout du compte, et c'est ça un des gros problèmes que pose le relativisme, c'est qu'il peut facilement se retourner en ethnocentrisme. Parce que si vous êtes relativiste, vous allez dire que vous n'avez pas le droit de juger les valeurs d'une autre culture parce que elles sont incommensurables avec nos propres valeurs. On ne peut pas les comparer. Mm-hmm. À partir de là, si on ne peut pas les comparer, déjà ça pose un problème pour le projet ethnologique. Comment est-ce qu'on peut les connaître si on ne peut pas les comparer? Donc comment est-ce que Lévi-Strauss a pu écrire ses livres? S'il a raison. Et d'autre part, ça pousse aussi facilement vers l'idée qu'on est tous bien chez soi. Si les cultures sont incommunies, peuvent pas communiquer, autant rester chez soi, parce que si on essaie de se mélanger, ça va aboutir à des conflits ou à l'annihilation d'une des cultures en jeu. Et donc, au bout du compte, c'est pour ça que le relativisme s'entend si bien, du moins, quand les nationalistes, plutôt, peuvent être si facilement relativistes, au moins dans un premier temps. Les Barès, les Herder, tous ces mecs-là, diront toujours « Ah, mais culture africaine, c'est formidable !»
Chez eux.
Et c'est ce qu'ils vont ajouter, ils ajouteront, mais chez eux. Parce que chez nous, c'est les églises, c'est nos morts, c'est nos guerres, c'est notre histoire. Et surtout, on n'a rien à partager avec ces gens-là. Leurs ancêtres ne sont pas morts pour le pays. Ils n'ont pas ensemencé la terre, ils n'ont pas nourri leurs enfants avec leurs cadavres. Enfin bon, c'est aussi un culte des morts assez glauque. Mais qu'on trouve chez Barès. Mais c'est vraiment la terre, nos morts et l'enracinement.
C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais que le relativisme était devenu une revendication de gauche. C'est aussi, évidemment, la revendication de tous les identitaires du monde.
Ah oui.
Donc, c'est à la fois une revendication portée par la gauche critique, ou en tout cas qui se pense comme ça, et aussi, évidemment, par tous les identitaires d'extrême droite.
Au nom des particularismes nationaux.
Au nom des particularismes nationaux, ou régionaux, ou continentaux, ou tout est possible, après, en combinaison. Mais l'idée qu'effectivement,
parce que maintenant, t'as des identitaires européen, donc et donc je trouve que pour le coup Todorov il place le débat sur un terrain qui est intéressant d'un point de vue
il pose le dilemme
de l'histoire des idées et il montre aussi à quel point je pense c'est difficile de concevoir un universalisme qui soit pas une saloperie déguisée, mais peut-être à quel point aussi c'est nécessaire d'essayer d'aller dans cette direction là en tout cas. Enfin, moi, c'est plutôt ma conviction personnelle, donc évidemment, ça m'intéresse.
Donc, tu nous donnes la clé de l'énigme, on fait une petite pause musicale ou...
Non, parce que là, je vais parler de race et racisme, parce que je trouve qu'il y a une analyse super intéressante des deux. Okay. On a fait la pause musicale, il y a quoi? Un quart d'heure. Bon, allez, on fait une autre pause musicale, et puis j'obéis à Jean-Mathias, et voilà.
C'est vrai, ça.
Let's go.
Radio Libertaire 89.4, Radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Vous venez d'écouter, toujours la suite de cet hommage à DX, avec un groupe de Suissesse qui s'appelle Massico. Et le titre du morceau, c'est L'Autre. Et pourquoi ce titre? Parce que Michel nous présente depuis le morceau présent, c'était nous. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce que Michel nous présente un livre de Zdenek Todorov qui date de 1989, mais qui a l'air fort intéressant, qui s'appelle Nous et les autres, justement. Et qui porte sur une espèce d'histoire de la réflexion française sur la diversité, notamment chez de nombreux auteurs, philosophes, autour du siècle des Lumières. Et tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus là dans cette dernière partie de l'émission sur la manière dont l'universalisme peut, c'est-à-dire le projet de chercher des valeurs qui seraient communes à tous les hommes et d'en tirer éventuellement une politique de paix et d'émancipation universelle, comment ce projet-là peut paradoxalement basculer dans toute autre chose et comment il a pu évoluer vers des formes de racisme et de racialisme telles que le montre Todorov dans son livre. Donc c'est peut-être un point intéressant là sur le
Je trouve que c'est un point super intéressant parce développer. Que pour le coup, alors peut-être que je suis ignorant en la matière, mais j'avais jamais lu une analyse vraiment fouillée des auteurs racistes du 18e et du 19e siècle. C'est-à-dire d'où vient le racisme, comment est-ce qu'il est conçu, à partir de quels principes et tout et tout. Et ça, pour le coup, il va analyser Buffon, il va analyser Gobineau, il va analyser tout un tas de gens qui vont poser d'après lui toutes les bases de ce qu'il appelle le racialisme. Alors ce qui distingue racisme et racialisme, pour lui le racisme c'est un comportement souvent borné et contradictoire et pas très très intéressant, mais plus dangereux que le raciste de base, d'une certaine manière, il y a le racialisme, et ça, le racialisme, c'est une idéologie cohérente, réfléchie, et développée à longueur de page par certains auteurs de la grande tradition française. Et en particulier, Buffon. Et Buffon, grand naturaliste du XVIIIe siècle, qui écrit dans l'encyclopédie et qui est reconnu comme un des plus grands savants de son époque.
Alors on précise, il y a quelque chose. Alors, ce qui est pas forcément original dans l'approche, mais tu m'as besoin de dire, c'est le fait de dire que finalement les Lumières, en cherchant l'universel, ont dégénéré et sont porteuses du racisme et toutes les catastrophes du XXe siècle. Parce c'est une critique qui est fréquente,
qui est très classique.
C'est pas la sienne, non. D'après ce que tu dis. Donc, et en même temps, il épargne pas ceux qui, dans les Lumières,
exactement.
Ont pu donner lieu à ça.
C'est ça. Voilà. Il condamne pas les Lumières d'un bloc, mais il ne va pas non plus dire que les Lumières c'est le bien absolu, parce qu'il voit bien la place qu'ont pu accorder les Lumières à ce genre de discours pour des motifs qui leur étaient propres, valorisation de la raison, de la rationalité, de la science, et donc dégénérescence entre guillemets en scientisme. Alors le racialisme, pour lui, appartient c'est justement à la famille spirituelle du scientisme, et donc c'est une forme de faux universalisme. L'universalisme factice. Alors sur quoi repose ce qu'il appelle le racialisme? Il l'analyse plutôt pas mal. D'abord, ça repose sur l'idée que des races existent. Et plus précisément que des races humaines existent, et plus précisément que ce fait a une importance. Donc ça repose déjà donc l'existence des races. Ensuite, point super important, et c'est là que ça rejoint ce qu'on a appelé le scientisme dans les parties précédentes de l'émission, le racialisme suppose une continuité entre le physique et le moral. C'est-à-dire que un auteur racialiste va déduire des différences culturelles à partir de différences physiques. Typiquement, on va trouver chez Buffon, ils vivent dans un pays chaud, ils sont noirs, et donc ils se comportent ainsi. Et donc ils ont telle morale. Alors évidemment, chez les racistes, chez les racialistes, vous verrez que c'est toujours réversible comme discours. C'est-à-dire qu'on peut, très facilement passer soit des différences physiques aux différences culturelles, soit des différences culturelles aux différences physiques. C'est une espèce de jeu de va-et-vient, l'un s'expliquant et expliquant en gros l'infériorité des autres races de préférence. D'autre part, les racialistes, d'après Buffon, sont convaincus de l'action écrasante du groupe sur l'individu. C'est-à-dire que si vous appartenez à telle supposée race, vous aurez nécessairement le comportement qui découle de votre physique et de votre culture qui sont liés. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de liberté.
Pas de possibilité de changement.
Pas de possibilité de changement, pas de possibilité etc. d'éducation, pas de possibilité d'émancipation, que dalle. Donc, à la rigueur, ceux qui sont inférieurs peuvent choisir se trouveront beaucoup mieux sous la férule bienveillante de leur nouveau maître, qui ne veut que leur bien. D'autre part, évidemment, dans le racialisme, il y a une hiérarchie unique des valeurs qui est souvent ethnocentriste. Et très fréquemment, vu les auteurs que Todorov étudie, cette hiérarchie unique des valeurs, elle est centrée sur les valeurs occidentales qui ne sont pas prises de façon critique. Jamais. Et enfin, le dernier élément pour lui, le tour de vis, et le truc le plus important et le plus dangereux, c'est que le racialisme croit à une politique fondée sur le savoir. Sur justement cette science des races. Et ce qu'il va essayer de montrer, c'est que justement, chez Buffon, donc le naturaliste dont je vous parlais, la théorie du racialisme est déjà complète. Même si elle est très ambiguë, parce que Buffon, comme en tant que naturaliste, est bien obligé d'admettre et de postuler l'unité du genre humain en tant qu'espèce. Il peut pas. Il sait déjà que quand des noirs et des blancs forniquent, ils peuvent avoir des enfants qui seront féconds. Et donc, il sait que. Alors, ça l'embête beaucoup.
Bah oui, c'est tout le problème des mulâtres.
Ça, on sent que ça l'embête, le Buffon, parce que Todorov cite des passages assez amusants ou assez amusants, enfin glaçants. Ouais. Enfin, c'est des passages qui sont à vomir, où il dit, en gros, si on savait pas que le nègre et le blanc pouvaient avoir des enfants ensemble, on pourrait croire que le nègre est au blanc ce que l'âne est au cheval. Il écrit des trucs comme ça. C'est quand même gonflé, sachant, enfin, c'est en tension complète avec ce qu'il peut dire sur l'unité du genre humain. Parce qu'en fait, il n'a pas envie de cette unité, Buffon. Il est obligé de la postuler à cause d'observations naturalistes, mais il n'en veut pas du tout. Et donc, c'est pour ça qu'il va tout le temps dériver sur des positions où il va, complètement ethnocentriste, où il va juger les autres cultures à partir de leur race supposée.
Mais qu'est-ce qui reste du coup d'universaliste dans cette affaire-là, là, à part, parce que si effectivement l'unité du genre humain, l'unité biologique du genre humain, donc la capacité à se reproduire au sein d'une même espèce, lui pose autant de problèmes, c'est quand même un universalisme reculons, quoi.
Ah, pas complètement. Ouais. Parce que ce que montre Todorov, c'est que justement, pour lui, c'est là qu'on voit que c'est un universalisme factice. C'est-à-dire que c'est un universalisme qu'on Buffon ne veut pas, en fait. Parce qu'il est profondément convaincu qu'il y a une hiérarchie entre les races supposées. Et donc, là-dessus, il est un peu coincé et il se contredit. Ça qui est intéressant aussi, c'est que, justement, parfois, Todorov montre souvent que ce type de position racialiste ou ethnocentriste est très très fréquemment conduite à la contradiction par ses propres présupposés.
Parce que tu peux quand même te demander, quand tu lis les passages comme celui que tu as cité, là, en fait, ce qui reste effectivement chez Buffon d'un penseur des Lumières dans des passages comme ça. Parce que si tu veux, à part le souci apparent d'une espèce de rigueur scientifique, voilà. Mais de fait, c'est pas le propre des Lumières, ça. C'est non. Pas. Donc, est-ce qu'effectivement, du coup, de ce point de vue-là, tu peux dire qu'il y a quand même une tendance à l'universalisme des Lumières à dégénérer là-dedans? Enfin, sur des cas comme ça, ça me paraît pas.
Je vais prendre le cas de Taine pour répondre. Taine, un auteur français très admiré de Nietzsche, fin 19e, qui se présentait comme un psychologue.
Un anticommunard. Virulent.
Anti-socialiste, anti-égalitariste. Un type charmant. Et Taine est aussi complètement opposé aux Lumières.
Oui.
Sauf que, d'après Todorov, il va reprendre des Lumières systématiquement le déterminisme, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de liberté. Et ça, chez Buffon, c'est pareil aussi en tant que naturaliste. Et je pense que c'est pour ça que Todorov insiste autant sur la critique du scientisme. C'est-à-dire l'idée que tout découle de notre nature et qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Et ce que dit là-dessus Todorov, c'est que Taine ne prend des Lumières finalement que le déterminisme biologique. Et il va rejeter tout le reste. Un idéal universel. Taine, c'est le genre de mec qui dit j'ai jamais rencontré l'homme, j'ai rencontré des Anglais, j'ai rencontré des Allemands, j'ai rencontré des Français, mais l'homme, il reprend ça plus ou moins à Mestre, Joseph de Mestre, qui était aussi une belle pourriture.
Lui, c'est un furieux.
C'est un fou furieux monarchiste, anti-révolutionnaire.
Savoyard.
Qui était vraiment pas sympathique. Et donc, pour Taine, il n'y a ni universalisme, ni unité de l'espèce humaine, ni égalitarisme. Et finalement, c'est peut-être ça que Todorov voudrait retenir des Lumières. C'est un idéal universel, même s'il n'est pas achevé, parce que cet universel doit toujours être ouvert. Et on va y venir là. L'unité de l'espèce humaine et l'égalitarisme. Et là-dessus, je pense qu'il tient, mine de rien, des points sur lesquels on n'a pas envie de lâcher. Et alors, tu me disais, là, pendant la pause, que tu as peut-être donné aux auditeurs deux exemples concrets. de ce que pourrait donner
de ce que serait l'universalisme authentique des Lumières, peut-être, ouais, effectivement, ouais,
d'après ce que veut Todorov, en tout cas. Et toi, tu dis proposer la religion.
Bah, peut-être, je sais pas, ouais, on réfléchissait plusieurs. Bah, on évoquait tout à l'heure le cas de la démocratie.
Oui.
En fait, t'as deux manières, par exemple, de défendre la démocratie comme une espèce de politique universelle. T'auras une mauvaise manière, d'après Todorov, qui consistera à dire, eh ben, c'est un héritage du miracle grec, ça apparaît à Athènes, et donc ça naît en Occident, et après, eh ben, tout le monde doit s'aligner parce que tout le monde doit comprendre un jour que.
Oui.
C'est, voilà. Ou alors, effectivement, tu prends le cas athénien, mais tu le mets en regard à d'autres expériences.
C'est d'autres un peu pratiques.
D'autres pratiques, c'est ce que fait Graeber dans ses petits bouquins, en essayant de montrer comment, dans d'autres contextes, à d'autres moments de l'histoire, il y a des pratiques égalitaires et de prise de décision égalitaire, souvent consensuelles, etc., qui se développent, qui apparaissent dans de tout autre contexte, et qu'effectivement, ça converge. Donc, il y a quelque chose, un universel qui est en train de se mettre en place, ou qu'on peut identifier, ou dont on peut supposer que, mais qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui se plaquerait, ou qui, voilà. Donc, ça serait dans le cas politique. Et l'autre, c'est effectivement, moi, si tu veux, c'est la seule, peut-être, alors je sais pas, il faudrait que je le dise plus en détail, mais la seule réserve que j'aurais par rapport à ce que tu présentais là, c'est que je suis pas certain qu'aujourd'hui la virulence de la pensée raciste s'appuie sur des arguments de type scientifique. C'est pas sûr qu'ils aient complètement disparu.
Je pense qu'ils restent en fond.
Sont peut-être en fond, mais si tu veux, aujourd'hui, c'est surtout la diversité des cultures qui est mise en avant, et en particulier des cultures religieuses, qu'on fait Huntington, ou l'islamisme radical d'ailleurs, puisque voilà, et comment à l'intérieur d'une culture religieuse, effectivement, tu te penses comme c'est un universalisme hégémonique, en fait, qui se pose.
Complètement.
Et là, peut-être qu'effectivement, une des leçons qu'on pourrait tirer de ce qu'il essaie de défendre, ça serait de dire que tu peux pas penser d'universalisme hégémonique à l'intérieur d'un seul cadre religieux. Tu peux peut-être, ça veut pas dire non plus que tu dois forcément abandonner ta religion, si j'ai bien compris, mais que t'es obligé, si t'as effectivement une aspiration à formuler des valeurs universelles, ou une politique universelle, etc. Tu peux te situer dans un cadre religieux particulier, mais t'es obligé de le mettre en question avec autre chose. T'es obligé de le mettre en question avec autre chose, et effectivement c'est le travail des deux, en fait, c'est-à-dire de ta culture religieuse éventuelle, et puis par exemple de ton athéisme, d'une autre culture religieuse au moins. C'est le travail de tout ça, et les déplacements que ça provoque, que tu peux considérer comme une espèce de chemin vert de l'universel. Ça serait quelque chose comme ça. C'est dit de manière un petit peu abstraite, mais ça permet d'éviter tous les travers dans lesquels, les travers identitaires, quoi. Tu vois, le fait de s'enfermer dans les racines chrétiennes, gauloises, ou musulmanes, ou je ne sais quoi, en fait, quoi. Ou d'ailleurs post-esclavagiste, ou autre. C'est effectivement le fait d'avoir à la fois conscience des contours et des limites de sa propre culture, et d'être capable effectivement de les mettre en travail avec autre chose, avec quelque chose d'extérieur. Alors je sais pas si c'est peut-être quelque chose de cet ordre-là,
parce que justement c'est pour lui l'universalisme, c'est jamais un point de départ, c'est toujours un point d'arrivée provisoire.
Et au fond, on pourrait dire que l'universalisme, ça consiste d'abord à être relativiste avec sa propre culture.
Oui, on pourrait dire ça comme ça. Être relativiste avec sa propre culture, ou avec ses propres pratiques politiques, religieuses, sexuelles, ou autres. Oui, ne pas s'ériger soi-même en valeur, soi-même et sa culture en valeur. Oui, c'est peut-être ça l'universalisme. C'est d'abord relativiste avec soi-même.
D'abord et peut-être même exclusivement.
Oui. Faudrait voir, parce que malgré tout, on peut. Ouais. En tout cas, critique. Oui, ça, c'est un truc qu'il n'arrête pas de dire. C'est que. Comment dire. Tes propres valeurs sont les plus suspectes à partir du moment où tu essaies de les ériger en universel. C'est celle qu'il faudrait le plus essayer de casser pour essayer de trouver quelque chose, si on veut espérer trouver quelque chose d'universel, qui puisse réunir tous les êtres humains sans les exclure, parce que c'est aussi assez grand. Quand on pose la question de l'universel aujourd'hui, on pose surtout la question de l'exclusion, quoi. Donc malheureusement, et donc aujourd'hui c'est fini.
C'était Nous et les Autres de Tzedan Todorov, un livre de 89. Toute l'émission est en ligne sur notre site jeudinoir@gurdulu.
Au revoir,
à bientôt.